CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Bonbons que j'ai apporté à ma gang. Bonjour tout le monde. Si vous voulez en avoir, vous venez aux deux Sainte-Catherine, au coin de Sainte-Catherine donc et Saint-Laurent. C'est l'émission Trait d'Union en direct présentement. Bonjour équipe.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Ça va bien, Mickey?
Ça va et toi, Louise?
Ça va très bien parce qu'on le sait, c'est vendredi, il fait beau. Puis toi, Raphaël?
Ça va bien. Oui, il fait beau, la lumière apporte beaucoup de chaleur dans ma vie.
Bien, dans toutes nos vies. On a besoin de passer ta vie en noir, quasiment toute la gang, pour se faire, tu sais, absorber tous les rayons là, qui sont sur nous. Et puis, France, ça va?
Ben oui, ça va. J'avais un petit peu de problème avec mon micro, là, mais
mon
tout va bien.
Moi, tout va bien. Et oui. Puis, on a le retour de Béa. Béatrice, bonjour, belle chevelue.
Bonjour à tous. Contente d'être parmi vous aujourd'hui.
Oui, on a de presque tous les accents ici parce qu'il va en être question. On parle de la langue, gang. Quelque chose, puis là, je viens de dire gang. Est-ce qu'on peut dire que c'est international, le mot gang? Ou le gong.
Le gong.
Le gong.
Le gong. Parce qu'on dit « le », c'est devenu plus français.
C'est parce que c'est un gong, non?
Ben nous autres, on dit une gang. La gang. On dit la gang.
C'est
ici.
Parce qu'en anglais, il n'y a pas ton, là.
Non, il n'y a pas de « le », là. Alors, j'imagine que toi, France, tu es de mes générations, tu vas être avec moi là-dedans.
Ah, c'est sûr.
Puis on commence tout de suite parce qu'on parle de la langue du cœur.
Je me suis déjà retrouvé dans une situation où on était, je pense, 16 ou 18, on nous avait posé la question, la langue, c'est un choix ou un héritage? Puis tous ceux qui avaient grandi en milieu majoritaire ont dit que c'était un héritage. Tous ceux qui ont grandi en milieu minoritaire ont dit que c'était un choix. Pas parce que l'héritage n'est pas important. L'héritage est juste, de nos jours, plus suffisant.
La langue normative française, ça ne vient pas rejoindre mon cœur, ça ne vient pas rejoindre mon cerveau.
On est capable de comme, traduire nos... comme faire nos propres mots, comme si je trouve ça créatif.
Faut pas nous effacer, faut pas effacer personne qui parle un entre-deux ou un mélange ou un extérieur de c'est quoi le français normatif, faut pas les aliéner.
De jouer dans la langue et d'en rire, je pense que c'est peut-être ce qui résume le mieux ce qu'on fait avec cette langue-là. On la tord, on joue avec les règles, on déjoue les règles, on la bâcle parfois, c'est certain, mais en même temps, c'est se permettre de faire ça à une langue, c'est de rendre cette langue-là vivante.
Mon chiot fait juste partie du fabric de qui ce que je suis. Il faut que je m'exprime de la façon-là, sinon il y a une partie de moi qui meurt.
On est menacé de disparaître constamment. Au milieu d'un océan de 350 millions d'individus qui parlent autre chose.
Au Québec, on est 6 millions à parler français. On dort avec le reste du Canada qui parle anglais, avec les Américains. Mon village est à 600 km de New York. Oui. Vous le recevez comme vous le recevez aussi, la culture américaine chez vous. Vous savez comment ça vient et qui s'envahit. Mais nous, on les côtoie. Il n'y a aucune flaque d'eau qui nous sépare. Pour réussir à parler français, ça demande une vivacité. Puis on est obligé de garder une langue vive. Parce que c'est beau de la camper dans des dictionnaires. C'est beau de l'écrire puis d'avoir de grands auteurs. Mais si elle n'est pas là vivante à chaque jour, chez nous, ça finit dans deux, trois générations. C'est géré.
Vous nous emmenez ce matin de l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, où le gouvernement veut légiférer pour protéger encore un peu plus la langue française.
Vu d'ici, pourtant, il y a de quoi se dire comment ça protéger la langue française au Québec, cette province où les habitants préfèrent envoyer des courriels plutôt que des mails, où ils mettent des mots dièses sur les réseaux sociaux au lieu de hashtags, et où le mythique Taxi Driver de Martin Scorsese est sorti en salle sous le titre beaucoup moins alléchant de chauffeur de taxi. Alors oui, nous pensons fièrement que notre langue résiste en Amérique du Nord face à l'anglais, comme Astérix et son village s'opposent à un autre impérialisme. En fait, non. En 5 ans, l'usage du français au travail a chuté. Il est passé de 60 à 56%. Si c'est ça le Québec moderne, il y a de quoi mettre son drapeau en berne. Il y a urgence à agir. Ce n'est pas le fond qui divise, ce sont finalement les moyens employés pour freiner l'érosion du français, car les langues aiment cohabiter au Québec. Je me souviens d'un ami montréalais qui m'a dit un jour « Quand toi tu vas garer ta voiture au parking, moi je vais parquer mon char au stationnement. Tout est là. Je me souviens que ces langues s'imbriquent et se nourrissent l'une de l'autre. Je me souviens, c'est surtout la devise du Québec frappée sur les plaques d'immatriculation.
Vive la belle province, Jean-Sébastien Soldaini. Moi, je soutiens ce combat de défense de la langue française, dont on devrait faire la même chose, je pense.
La langue est un énorme pays. On ne se doute pas à quel point les mots, après nous avoir habités, nous obligent à habiter la langue.
Je pense qu'une langue, ça faut l'aimer. C'est trop dans l'émotion, puis dans la...
Dans la culture.
C'est trop dans la culture, puis dans l'amour, puis dans le... C'est pas quelque chose que tu peux forcer.
Ben non, on peut pas forcer ça, mais quand même. On a entendu, donc, une entrevue de Céline Galipeau avec Vigneault, au départ. Après ça, c'était le passage de Fred Pellerin à l'émission française « On n'est pas couché », que tous les Français connaissent, je pense bien. Reportage de Jean-Sébastien Soldaini sur Europe 1. Et puis Catherine Lévesque en entrevue dans le documentaire présenté sur Tout.tv qui s'appelle « Le dernier Canadien-Français ». Je vous invite à écouter ça. Et mon Dieu, vous auriez dû voir la réaction de Nikki quand on entendait le reporter. Et je suis curieuse en tabourette. Qu'est-ce qui te faisait réagir comme ça?
Ça me fait juste rire. Comment dire? Comment on s'imagine le Québec, les journalistes français? Ça m'a vraiment fait rire. Le dièse sur Twitter et genre...
Ils écrivent les titres de films en français.
Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'on fait ça.
C'est
nous.
Ça.
Ouais. Bien, là, c'est juste un avant-goût pour vous dire à quel point ma génération, en tout cas celle de France et de moi, l'importance que le français a. Bien, là, on a entendu des jeunes quand même. J'ai fait une phrase, justement, faite à l'anglais, tu sais, à l'anglaise.
Oui, un anglicisme.
Oui. Mais donc, nous, quand on était petits, à Montréal, on venait au centre-ville et tout le monde parlait anglais. Mmh. On allait magasiner chez Eaton, Morgan,
Simpson,
et tout le monde nous parlait en anglais. On avait de la difficulté à se faire servir en français. À partir de la rue Saint-Denis et dans l'Est, on arrivait à pouvoir vivre chez nous dans notre langue. Mmh. Tout est là dans ce que je viens de dire. On n'était pas capable de vivre dans notre langue chez nous. C'était frustrant en tabourette. Mon père a réussi à parler anglais. Il a réussi à avoir un travail payant. Mais tous les francophones qui étaient unilingues français ne trouvaient pas de travail. Par contre, un anglophone unilingue anglais, no problemo, tu sais, il trouvait des jobs facilement. Fait que quand est arrivée la loi 101, quand est arrivé le moment où je suis à la cabane sur Saint-Laurent, que la table à côté de moi, tout le monde se parlait en anglais, et puis que la serveuse arrive, puis elle les avait pas entendus, puis elle dit « qu'est-ce que je peux vous servir? » Ils ont tous parlé en français. J'étais avec un de mes amis, on s'est regardé, on a dit « On n'aurait jamais vu ça avant que le Québec dise « C'est assez, ça va faire, on veut vivre dans notre langue.
Ouais. »
Et puis la loi 101 nous a beaucoup aidés, même les anglophones nous respectaient plus. Puis là, on en parle aujourd'hui parce que je commence à réentendre et à revivre cette frustration.
Mais ça ne vient pas des mêmes anglos qu'à l'époque.
Non,
parce
non,
qu'aujourd'hui, ben, moi, j'ai fréquenté des anglos. Ils trouvent que c'est difficile pour eux de trouver du travail quand ils ne parlent pas français.
Ben, tant pis.
Et aujourd'hui, les anglophones dont tu parles, je pense, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas concernés par cette histoire. Ce ne sont pas leurs parents, leurs arrière-grands-parents. Leurs arrière-arrière-grands-parents n'ont pas fait la guerre. Enfin, tu sais, pas la guerre, je veux dire, le anglo-Québec,
oui, le conflit, là.
C'est des gens plutôt d'ailleurs, quoi, pourtant, des internationaux.
Mais, et pourtant, le directeur de Air Canada s'est vanté d'avoir pu vivre ici en anglais toute sa vie.
Ben, c'est ça qu'a dit.
Il est marié avec une francophone.
Ah, OK.
Il est marié avec une francophone, puis il n'a pas dénié d'apprendre le français.
Oui, mais il y a le privilège d'être le président d'Air Canada, là, tu sais.
Mais
moi, c'est peut-être de notre faute. Quand on reçoit des gens, il faut leur dire qu'ici, c'est le français qui prime. Comme si tu vas en France. Si je vais en Chine, vivre là, je vais apprendre le chinois.
Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup du fait que, comme tu dis, si tu vas en France, ils ne vont pas te répondre en anglais parce qu'ils ne parlent pas anglais. Mm-hmm. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'amis aussi qui sont juste soit étrangers, soit anglo. Puis quand ils essaient de parler français, dès qu'ils ont un accent pas québécois ou pas français de France, ben, on va leur répondre en anglais. Et moi aussi, je fais ça avec les gens.
Au Québec, ils font ça.
C'est
aussi.
Ça.
Mais genre, au Québec, les Français parlent en anglais ici. Ils se parlent entre eux en anglais.
Ah bon?
Oh oui. Va sur le plateau Mont-Royal, là, puis tu vas voir
j'ai
que...
J'ai peur d'aller là-bas. Non, c'est pas vrai. Mais OK, je savais pas. Mais je pense qu'il y a aussi un... En tout cas, on oublie que c'est qu'à Montréal qu'on parle cet anglais vraiment beaucoup plus intense, tu vois. Je pense
mais ça
que...
va se propager, c'est certain.
Tu penses?
Et que ça me fait peur. Parce que là, malheureusement, ben, on va y revenir après. Là, on va comprendre un petit peu comment est née la langue française. Tu sais, on va revenir un petit peu là-dessus après le petit bout d'audio qu'on va avoir encore.
Comment est née la langue française? Du 14 au 22 mars, c'est la fête de la langue française. Elle est célébrée sur les 5 continents. Pourquoi? Parce que le français est parlé par 274 millions de personnes. En France, en Belgique, au Québec, dans plusieurs pays d'Afrique, avec des accents différents. Partout, les gens utilisent les mêmes mots et la même grammaire. Mais il a fallu 25 siècles pour inventer cette langue. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la France parle 3 langues, le grec, le ligure et le gaulois. En moins 50, les Romains envahissent la France avec leur langue, le latin. Au 5e siècle, le peuple des Francs prend leur place. Ils prononcent le latin à leur manière, ajoutent leurs mots et créent ainsi une nouvelle langue, le roman. En 800, Charlemagne remet le latin dans les écoles et les églises. Alors, les gens cultivés parlent latin et le peuple roman. Au 10e siècle, le roman a pris des centaines de formes différentes dans les régions. Pour dire oui, les gens du nord disent « oil », les gens du sud disent « hoc ». Peu à peu, c'est la langue parlée près de Paris qui se répand, le francien ou français. Pour que tous les habitants se comprennent, le roi François Ier décide en 1539 que les lois seront rédigées en français. Et après la Révolution, l'école se fait en français. Au fil des siècles, des mots étrangers entrent dans la langue française. Pays est un mot gaulois, prudence est latin, magasin est arabe et Internet est anglais. Une langue, c'est vivant.
Et mon identité, je ne peux pas la renier. Même si je voulais la renier, je ne pourrais pas. On me la rappellerait.
Oui.
Je porte mon identité partout.
T'sais, la protection de la langue française, je vois pas ça comme un enjeu politique, je vois ça comme un enjeu de société.
Oui.
Puis, peu importe c'est quoi tes convictions politiques, je pense que c'est important de juste pouvoir préserver ça. Puis en tant que société, je me dis, c'est là-dessus que je me positionne.
Ouais, bon.
Ils ont jamais cru en nous, man! Tu regardes partout ces écrit en anglais! Mais tu sais quoi, man? Gardez-la votre anglais! Parce qu'on va prendre ces complots, puis on va ramener à Montréal! On va ramener au Québec! Puis on va ramener chez nous!
Aux alentours du lac Sagué, il était venu pour bûcher et pour les femmes. Il trimait comme déchaîné, puis le samedi soir à l'échiquier avec les femmes. Un Québécois comme il y en a plus, un grand six pieds poilu en plus, fier de son âme. Je suis de nationalité québécoise, française. Et ces billots, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglaise? Mais son patron, une tête anglaise, une tête carrée entre parenthèses et malhonnête. Mesurait le bois du grand six pieds, rien qu'à l'œil, un œil fermé, il était pas bête. Mais le grand six pieds l'avait à l'œil, il lui préparait son cercueil en épinette. Je suis de nationalité québécoise, française, et ces billots, je les ai coupés à la sueur de mes deux pieds dans la terre glaise. Et voulez-vous pas m'emmerder avec vos mesures à l'anglaise? Puis un matin dans les rondins, il lui a gossé la moustache à coups de hache. On a fêté le grand six pieds, il y avait de la bière, du leur salé et puis des femmes. Monsieur le curé voulut le confesser, mais le grand six pieds lui a chanté sur sa guitare. Je suis de nationalité québécoise, française. Et c'est bio, je les ai coupés à la sueur
la discussion,
de
vous autres, là. Et là, 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 là. On aurait dû faire 2 heures de cette émission-là. Alors, évidemment, on vient d'entendre Gilles Vigneault encore, Marc-Antoine Decoy de l'équipe de football de Montréal, qui a rapporté la course et qui s'est...
La coupe.
La coupe, oui. Et qui s'est... prononcée du fait que là-bas, les francophones, c'était zéro. Et puis, j'ai choisi de mettre la toune de Claude Gauthier qu'on chantait à tue-tête dans les boîtes à chansons à l'époque. Nous chantions tous en chœur.
Ah oui.
Pour nous affirmer, parce qu'il fallait encore dire « Oui, je suis francophone chez nous. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît, dans ma langue, s'il vous plaît? »
Ça passe beaucoup par la culture, hein?
Bien, c'est ça. Mais ça, on va faire une émission là-dessus, justement. Ouais. Puis là, tantôt, on a une discussion. Je comprends ton point de vue. On va y revenir, justement. Ton point de vue sur le fait que quand tu arrives à quelque part, quand quelqu'un arrive chez toi, accepte-le, comprends-le, sois patient et donne-lui le goût peut-être d'apprendre. Moi, j'étais affirmative en disant, ben moi, je vais apprendre le chinois avant d'aller en Chine, tu sais. Ben, tu sais, c'est ça.
Mais je te mets au défi d'apprendre le chinois tout de suite et puis de faire des amis chinois.
C'est bien évident que le chinois, c'est pas la langue la plus facile. J'ai un ami qui a pris des cours là-dessus et qui a beaucoup de difficultés.
Mais il y a un point de ce que tu viens de dire, c'est l'attitude. Ouais. Tu sais, depuis tantôt, j'entends, là, puis moi, ça me fait réagir, puis on le voit peut-être pas au micro, mais toujours chez nous ici. Moi, quelqu'un qui me dit ça déjà dès le départ, ça me met dans une drôle de posture.
Ben, c'est pour ça que je voulais des générations... Oui. Qu'on se parle là-dessus. Mm. Parce que nous, c'est viscéral, c'est vital. Oui.
Et pourtant, je suis chez moi ici aussi, oui, comme les générations avant moi, peut-être pas depuis aussi longtemps, mais je pense qu'il faut arrêter de se comparer. Et ça nuit justement à peut-être à cette culture. Une langue qui est vivante, c'est une langue qui évolue. Puis je pense qu'il faut qu'on le rappelle déjà.
Mm. Ouais.
J'aimerais partager quelque chose, moi, mon rapport avec la langue française, en tant que française. J'ai comme un méchant malaise qui vient de l'histoire de notre pays, la France. Et la France est allée coloniser des pays et ça s'est mal passé, ça a été abominable et ça a été sous coup de... On force les gens à apprendre le français, on force les gens à oublier leur tradition d'avant, leur langue d'avant, leur culture. Mmh. Et le français, le français. Et... En venant, c'est sûr que voilà, mon rapport,
en fait,
je suis mal à l'aise.
On fait ça partout, que ce soit portugais, italien.
Oui, mais n'empêche qu'aujourd'hui, la francophonie qui se clame d'avoir 270 millions de francophones dans le monde, à quel prix? Et tant qu'on n'aura pas, enfin, peut-être pour moi, tant qu'il n'y aura pas ce pardon qui est demandé, je ne pourrai pas continuer à clamer haut et fort. Non, il faut parler français et puis imposer aux autres de parler français parce que j'ai l'impression de reproduire des méthodes coloniales.
J'ai des frissons.
Pour revenir aux différences de génération, je pense que, comme tu disais, c'est viscéral parce que vous avez subi l'inverse de l'anglais majoritaire. Moi, je peux parler français au Québec, je ne peux pas. Moi, je pense que si j'étais fondamentalement genre né au Québec, j'aurais été sûrement très très souverainiste. J'aurais dit c'est chez moi ici. Mmh. Mais avec mon point de vue, je trouve que la France, par exemple, la francisation et l'intégration des gens au Québec, elle est extrêmement mauvaise.
Ben,
sachant que le français est une langue très dure à apprendre. Et puis ils t'apprennent le français de base là. Le québécois, il est aussi différent. Comme une langue évolue très 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 intensément. Donc je pense qu'il faut aussi revoir les conditions d'entrée des gens qui viennent. Par exemple, il y avait récemment...
On était maladroits, oui.
Bah, récemment, il y avait une histoire du tous les étudiants étrangers devaient se faire servir en français en arrivant au Québec. Sauf que quand t'es, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais quand t'es pakistanais, apprendre le français en deux jours, c'est pas possible.
Non.
Il faut quand même...
Même le 6 mois, il est trop court.
Ouais, mais même 6 mois, c'est ridicule.
Mm-hmm. Et les méthodes d'éducation sont importantes. Dans les derniers jours, j'ai rencontré quelqu'un qui a fait partie d'un programme de francisation avec des jeunes qui ne parlaient pas du tout français. Mm-hmm. Au bout d'une année, ces jeunes-là ont écrit des chansons en français. Savez-vous comment? Parce qu'on leur a donné l'espace pour pouvoir s'exprimer par l'art. Et c'est comme ça qu'ils ont appris le français. Ils ont écrit une chanson complète dans une langue qu'ils ne connaissaient pas dès le départ parce qu'on a mis des paramètres personnalisés. Je pense qu'il y a une question profonde à se demander comment on apprend le français au Québec parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. L'immigration va continuer. On ne l'arrêtera pas. Il ne faut pas qu'elle arrête. Mais comment nous-mêmes, on apprend notre propre français? C'est une matière pourtant que j'aimais, mais que je détestais en même temps. C'est le français parce que c'est la façon qu'on me l'apprenait. Pourquoi j'aimais l'histoire? Pourquoi j'aimais le sport? C'est de la façon comme elle apprenait. Mm-hmm. En français, c'était sévère, c'était des histoires dans lesquelles je ne me reconnaissais pas, c'est une façon de m'apprendre, et là, je parle en mon nom à moi, mm-hmm. d'autres diraient peut-être l'inverse, mais c'est la façon peut-être qu'on apprend notre propre français. On a une mm-hmm. culture qui est extraordinaire, je pense qu'il faut l'utiliser, il faut utiliser ouais. l'art, utilisons d'autres choses pour apprendre notre français, et le français, ça s'apprend toute la vie. On ne peut pas juste miser sur « on l'a appris quand on était jeune, puis on mise là-dessus mm-hmm. », ça évolue, il faut être mm-hmm. conscient du français, de où on en est aujourd'hui. Puis je ne sais pas si la nostalgie aide toujours justement à ça. Mais il faut apprendre à réapprendre le français.
Ben, c'est sûr que je ne veux pas passer pour une xénophobe. Une...
Non, ça, je ne pense pas que c'est l'idée.
De voir la langue partir, parce que je me dis, le Québec se démarque en Amérique du Nord, tu sais, en Amérique du Nord. Puis je dirais même toute l'Amérique. Par rapport, ben, je me dis, c'est le cerveau, c'est notre cerveau francophone. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, mais on est beaucoup plus de gauche, on est plus, je cherche mes mots.
Catholique. Hein? Catholique par rapport au reste protestant?
Je ne sais pas. Moi, je trouve que les protestants sont plus généreux que les catholiques.
Moi aussi.
Les
catholiques sont plus ouverts aussi, je pense.
Oui, ouais. Les catholiques, ils ne m'impressionnent pas beaucoup. C'est pas ceux du Québec, en tout cas.
Non.
Le Québec catholique était ringard comme tu n'as pas idée. C'est un éteignoir de justement de renouveau et de non, c'était justement, on s'en est débarrassé dans les années 50-60 et puis ça a fait du bien, puis c'est là qu'on s'est démarqué comment ça s'est démarqué.
Mm-hmm. est-ce qu'on se débarrasse vraiment de siècles et de siècles et de siècles?
Non, ça s'atténue. Je te dirais que c'est comme
encore
disais,
un impact.
Ben ça c'est sûr qu'il y a des impacts, puis les impacts sont pas toujours positifs.
Est-ce qu'ils sont parfois positifs?
J'imagine que oui, là. Il faudrait chercher un peu qui pourrait être...
On parle de religion ou de français?
Moi, je parle plus... c'est parce qu'on parlait de religion. L'impact n'est pas toujours évident avec la religion. Là, okay. Tout ce qui ressort en ce moment de la religion au niveau des évêques, des prêtres...
On n'ira pas là.
Non, on n'ira pas là, mais bon.
Mais il y a du beau avec le français. Puis moi, il y a quelque chose... À chaque fois, avant de venir ici, je pensais au français. Puis je me disais, il existe peu d'endroits dans le monde où devant une télévision, une nation complète se réunit devant un produit francophone qui est le bye-bye. Mm-hmm. C'est purement français. C'est que du français pendant 2 heures. Et on est 4 millions de personnes. Ça veut dire que tout le monde qui a une télévision au Québec, là, parce qu'on est 9 millions, donc il y a des enfants puis il y a des gens qui n'ont pas de télé, sont devant leur culture française pendant plus de 2 heures. Ça arrive nulle part d'autre. Donc, il faut aussi miser sur ce qu'on fait de beau, de fort. Il n'y a rien de parfait, mais c'est rare un peuple comme ça qui se réunit devant, avec sa langue, le temps. En plus, le 31 au soir, pendant que ça pourrait être la fête, faire autre chose. Mm-hmm. Mais non, on veut célébrer le français.
C'est encore la culture qui nous rassemble.
Il faut apprendre
de ça. C'est pour
ça
qu'il faut...
Moi, j'ai des frissons quand je pense au bye-bye.
Mais malheureusement, là, comme les jeunes n'écoutent plus la télé, ils sont de moins en moins intéressés parce qu'ils connaissent plus les références auxquelles le bye-bye fait...
Mais il y a 2 semaines, je me suis retrouvée à un événement à Québec. Et en fait, c'était un événement par rapport aux indépendantismes chez les jeunes. Et il y avait 150 personnes, la salle était pleine. Ils ont refusé quasiment 300 personnes. Et en fait, ils veulent faire quelque chose un peu comme le refus global. C'est-à-dire, prenez cette culture québécoise et tout ça, mais à travers l'art et la culture. Et chez les jeunes, il y a un engouement de dingue. Ça ne s'essouffle pas comme mouvement, ça revient.
Tu me donnes des frissons, là.
la culture comme véhicule au français.
Raphaël, tu ne l'as pas parlé d'un article de Jean-François Lisée, toi?
Qui a fait beaucoup de bruit, justement. Ouais. Peut-être que vous avez vu passer ça dans Le Devoir il y a quelques semaines. Jean-François Lisée s'est penché sur la question d'identité au Québec. Et le tout est venu parce que, dans une école dans laquelle on va, Regina Assumpta, pour ne pas la nommer parce qu'elle fait partie de l'article, dans un de nos ateliers qui se nomme « Vivre ensemble, mieux vivre ensemble », on donne des outils aux jeunes pour apprendre à mieux vivre ensemble. On pose une question en début d'atelier où on demande aux jeunes qui, en levant la main, se considèrent Québécois et Québécoises.
Sur combien de personnes?
Par la classe. Okay. Et dans ce cas-là, qui a été utilisé pour l'article, il y avait 34 jeunes dans la classe, une école de Montréal. Il y a seulement 2 personnes qui ont levé la main pour dire qu'ils se sentaient Québécois, Québécoises.
C'est vrai.
Et pourtant, ils le sont tous. Québécois et Québécoises par le fait qu'ils vivent au Québec. Par définition, là, si on y va mot par mot, mais par leur définition, ils ne se définissaient pas comme Québécois et Québécoises. Il a fait un papier là-dessus, justement, cette crise identitaire, et qu'il y a maintenant aussi des Québécois et des Québécoises qui se font intimider par le fait qu'ils sont Québécois. Les fameux Kebs. Puis on voit le mot Kebs apparaître avec le K au début. Donc, il y a comme un côté un peu dérisoire à ça. Donc, il mettait la lumière sur cette forme de discrimination envers les Québécois purlaine, les gens qui font du rigodon, puis tout ça, que certaines personnes qui ridiculisent notre culture québécoise, notre français. Ouais. Et ça a soulevé beaucoup de questions. Et ce qui choquait beaucoup de gens, c'est de voir qu'autant de gens ne s'identifient pas comme Québécois et Québécoises. Et quand nous, on pose la question, parce que c'est la première question, mais on va plus loin que ça, on veut comprendre le pourquoi. Et souvent, on décèle beaucoup de discrimination un envers l'autre. Des jeunes nous disent, on ne me donne pas le droit de me sentir comme un Québécois et Québécoise.
C'est ce que, Béatrice, tu faisais ressortir un petit peu. C'est un peu de notre faute à nous, là, les Québécois. Est-ce qu'on les a bien reçus, ces gens-là, là, tu sais?
Bien, c'est pas la question de est-ce qu'on les reçoit bien ou pas, parce que je pense qu'il y a plein de belles choses qu'on fait, puis c'est plus complexe que ça. Mm. Mais quand on passe notre temps, justement, puis il y a des accents français autour de la table, de dire « Tu viens d'où, toi? » Déjà, on a ce réflexe-là avec quelqu'un qui est potentiellement blanc en plus, puis on leur demande tout le temps « Mais tu viens d'où? » Comme si...
Donc, ça met les gens en opposition.
Déjà, dès le départ, tu dois me justifier que peut-être t'es pas d'ici. Puis ça se peut que tu sois ici depuis plus longtemps que moi. Tu es peut-être même né ici, mais par ta culture et par la façon que tu as grandi, bien, ton Québec est différent de mon Québec. Mais lequel est plus valide que l'autre? Pour moi, ils le sont tous. Mm. Donc, c'est un peu ça, mais on a tous ces réflexes-là. Tu viens d'où? À quelqu'un qui a une peau différente de la mienne, ah, mais toi, à tes origines, bien, il va peut-être
mais
te dire,
moi,
bien,
ça
du Québec.
Quand mais je oui, le fais, c'est jamais condescendant. C'est toujours par curiosité, par... Je veux le savoir, puis j'adore les accents, j'adore.
C'est que j'adore leur mode de vie, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur pays.
Qu'ils vivent comme toi en plus.
Mais c'est ça qui est le fun, c'est d'échanger ensemble.
Je pense qu'il y a une fracture dans les accents, surtout au Québec, ou même dans les accents québécois, il y a des fractures, ce qui est très étrange. Mm-hmm. Puis, tu sais, je vais pas venir chialer, mais même en tant que Français, tu sens que t'es français au Québec. Moi, genre, mes amis québécoises, c'est je suis pour la blague, c'est je suis le français. Puis je serais pas autre chose. C'est correct, moi, ça me dérange pas.
Tu ris, hein? J'étais à Nice, on avait un...
Et t'étais la québécoise?
Non, mais il y avait le Marseillais.
Non, mais ça marche pour tous les types, tu vois. Mais
c'est pas juste que... d'ailleurs, non
Quand
plus.
On va en France, ils nous demandent souvent, mais j'ai pas compris, vous dites.
Oui, c'est ça. Exactement.
Tu sais, fait que je veux dire, on s'en sort là-bas. Pas, là.
Non, on parle la même langue, mais pas le même langage.
Mais ce qui est triste, c'est qu'on se le fait remarquer tout le temps. Et je comprends que si j'étais une personne potentiellement racisée et qu'on me disait tout le temps, oh, d'où est-ce que tu viens? Ben, je viens du Québec, tu sais. Mais. C'est pas méchant, c'est très innocent de toujours poser la question, mais je pense que tu poserais pas la question à quelqu'un qui est juste blanc ou qui a un accent basique, tu sais, québécois. Tu lui demanderais pas, est-ce que tu viens de Trois-Rivières, tu vois? C'est ça
ben,
que...
Tu ris, moi, je le fais.
Tu le fais, ben écoute.
Ben, je le fais.
Moi aussi, parce que...
Hey, toi, tu viens du lac, viens toi, pas. Tu viens de Trois-Rivières, ben, tu viens de Shawinigan, hein, toi?
Et tout le monde ne vient pas de Montréal,
ouais, mais bien sûr, je sais.
Mais c'est difficile pour sa propre identité de s'associer au Québec et à la langue française quand on passe notre temps à se comparer, à se mettre en opposition comme
ça.
Ouais. C'est l'opposition qui est complexe. Puis on le voit avec les générations, pour revenir à notre langue, je trouve qu'il y a toujours une opposition entre « Ah, ben avant, c'était comme ça, puis c'est moins bien aujourd'hui. »
Oui, je sais. Ouais.
Je pense qu'il faut qu'on apprenne.
C'est le problème des boomers. C'est pour ça que les générations doivent se parler tous les vendredis à Trait d'Union.
Oui, parce que moi, si on me dit ça, j'ai pas envie d'écouter finalement ce que les autres ont à me dire quand la conversation commence comme ça.
Ouais.
Parce que justement, quand les gens s'intéressent aux plus jeunes et que les plus jeunes s'intéressent aux plus vieux, c'est là, je pense, qu'on peut bâtir quelque chose de plus solide que si on se dit « Moi, je suis mieux que les autres. » Si dès le départ, on dit que le français était mieux avant, ça veut dire que c'est considéré que le mien est moins bon.
J'ai une question pour toi.
Ah ouais.
Toi, spécialiste de la chose, il me semble que le clivage, s'élargit. On dirait
est-ce que. Est-ce que je peux préciser?
Est-ce que, ben, j'ai l'impression que on est dans une période où justement, là, on se dirige de plus en plus vers des antipodes, puis que au lieu de
se rapprocher,
on n'a jamais été autant connectés et si peu déconnectés des autres. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit réapprendre à s'écouter, à se raconter. Et je pense que c'est l'article soulevait ça, c'est qu'on prend pas le temps de s'écouter. Et quand on s'écoute sincèrement, et qu'on a de bonnes intentions, ça peut faire toute la différence. Puis le français, je pense que si justement on prenait le temps à écouter ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant, qu'on mélange tout ça ensemble, on aurait un français qui vieillirait peut-être plus longtemps, peut-être plus en beauté justement, si on y donnait le temps et on s'investissait tout le monde ensemble.
Je sais
que c'est des belles paroles, mais si on était tout le monde ensemble autour de la table et qu'on s'écoutait, notre français serait encore plus fort et encore plus beau.
Bien, c'est pour ça qu'on existe. Puis là, ben, on n'a pas le choix, on faut pas s'aller au pub. C'est déjà fini la première demi-heure. On vous revient tout de suite après.
Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec, sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Chez Éduque à loi,
on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
Alors arrête de tourner les coins ronds.
Et renseigne-toi avec Angle droit.
Chaque mardi de 11h à 11h30.
Sur CIBL au 101.5.
C'est un rendez-vous parce que savoir...
c'est pouvoir.
Frère Théma, c'est un truc
de ouf. Hey, sur la tête de ma mère, elles sont trop bonnes. Aïe, hey, mademoiselle, hey, vous êtes grave charmante. Il y a moyen qu'on fasse connaissance ou quoi?
Laisse-moi, on s'en va. Non, relax. Excusez-nous, en fait, on cherche le chemin pour se rendre aux Champs-Élysées.
Ah! Je me fais un accent pourri, là.
Mon accent? Toi, tu penses que tu parles normalement ou...
Hey, tu crois, je rigole avec toi ou quoi? Qu'est-ce que tu m'embrouilles, Céline Dion? Je rigole pas avec toi, moi. Retourne sur ton Titanic, là, ou je sais pas quoi. Crois-tu vraiment me faire peur avec ta pauvre baguette? mais pourquoi je parle comme ça?
On se calme, sinon c'est votre tour. C'est bon, j'ai compris là. Hein? Bonne journée.
Bonne journée, mademoiselle.
Bonne journée! Elle voulait se tomber une femme!
Enfin, c'était pas non plus, je...
Vas-y, c'est trop moisi, vas-y là.
Ils sont chelous, ces meufs, mais... Parle normalement, gros. Mais que dis-tu, mon tendre ami? Je parle normalement.
On est pas, il parle comme de Molière. Salut, salut!
L'humoriste Kat Levac.
On parle tous français. Là, vous, vous luttez pour quelque chose de super important qui est votre langue depuis toujours. Là, nous, on arrive puis on lutte vraiment. Je veux pas vraiment être vilaine, mais on lutte plus, peut-être. Dans le sens, on a vraiment ça à cœur, là. Si on est en Ontario puis on parle français, là.
Ouais.
Pourquoi on n'est pas ensemble là-dedans? Je sais pas.
Je suis parfaitement bilingue et comme tous les franco-ontariens, j'ai un accent dans les deux langues.
On parlait beaucoup de Paige Beaulieu. C'est un personnage, qui parlait de l'accent franco-ontarien, de cette réalité-là-ish, mais pas tant. C'est juste une fille drôle à la base qui aurait pu avoir un accent acadien.
Chers francophones du Canada.
Salut.
Hello.
Hey.
What's up?
À qui de droit?
J'ai de choc à faire à dire.
Il faut que je me confesse.
Moi, ma francophonie, elle n'existe pas d'une roche. Elle bouge, elle est weird, elle est différente, elle est fluide. Sorry, faudra que tu deal avec la way que je parle.
Je m'appelle Éric Dow,
Gabriel Robichaud,
Xavier Gould,
Charlotte Hindy Le Ciolard,
Lisa Savoie-Ferron,
originaire de la Baie-Sainte-Marie, en Nouvelle-Écosse.
Je viens de Moncton, Nouveau-Brunswick.
Je viens de la péninsule acadienne.
De Moncton.
Moi, j'ai grandi en parlant l'acadien à la maison. C'est comme une variété du français acadien qui est spécifique à ma région natale de la Baie-Sainte-Marie.
Ben, le chiac, c'est vraiment un mélange de français, d'anglais, puis de vieux mots acadiens. Puis le chiac varie vraiment de région en région. Moi, mon chiac vient de Chidiac.
Yeah, moi, je suis très fière de parler chiac.
Non, je parle pas chiac, je viens de la péninsule acadienne. Je parle en français du matin au soir. Nous, on va moins avoir un peu d'anglicisme.
J'ai un accent comme tout le monde, un accent, ça finit de même.
Dans les entrevues et pendant les tournées, ça, on se fait poser beaucoup de questions par rapport à notre accent. J'irai pas jusqu'à dire que ça me dérange, mais je dirais que ça sera le fun d'avoir d'autres questions.
J'ai tellement de difficultés avec ces qualificatifs-là pour parler la langue, là, bon puis mauvais. Là.
J'ai jamais pensé, ah, oh, okay, peut-être que je vais perdre ma langue, comme je devrais plus parler en français. C'est quelque chose qui est souvent entendu ici, comme qu'il faudrait que tu parles comme le bon français.
En utilisant cette expression-là, le bon français, si on suppose que tout autre français, c'est quoi, du mauvais français?
Ça n'existe pas, le bon français, ça n'existe pas, le mauvais français. Le français, c'est une langue de niveau, il y a plein de couches à une langue. Puis c'est justement le fait que cette langue-là a plein de couches qui la rendent vivante.
Ben pour moi, si la personne peut me comprendre, pourquoi c'est un débat? À un moment donné, j'étais à Montréal, j'arrêtais pas de dire « Oh, je suis raide fier ». Puis là, la personne me disait que c'était pas la bonne façon d'user le mot. Puis j'étais comme, ben, je care pas, moi, c'est même que j'use le mot. Si tu m'as demandé, ah, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, je te l'explique en bon français. Puis là, t'as compris. Si moi, je continue à utiliser fier pour dire heureux, tu comprends. C'est pas un débat.
Cher Franco,
madame, monsieur,
veuillez.
Veuillez agréer, madame, monsieur, les salutations.
Quoi?
Ah, attends, ça veut accepter l'expression de mes sentiments. Veuillez agréer, ouais, c'est ça.
Et mes sentiments? L'expression de mes sentiments les plus sincères.
L'expression de mes sentiments les plus sincères, c'est ça? Je dirais jamais ça.
C'est pas même, je dis bye au monde.
Bye.
Voir en plus tard.
Soir.
On se voit autour.
Ma francophonie file fucking ben à ma bouche. Hi, mom!
Oh, swera! Oh, je pense que je vais l'adopter, ça.
Ouais, c'est cute.
Ah, c'était les accents. Et puis, ouais. Nikki, tu nous as préparé quelque chose là-dessus. Mais attends, je veux juste dire quand même que ça venait de l'émission RAD du 21 mars 2019. Et c'est savoureux. On avait tous de beaux sourires à les entendre.
Ouais, ouais.
Oui.
Vas-y, mon Nikki.
Ben oui, parce que comme ils le disent, quand tu parles le français ou n'importe quelle langue, ça vient avec un accent. Donc, quand ton accent, qu'il soit belge, français, suisse ou québécois, c'est toujours un indicateur de ton identité. En sociologie, l'accent, il apparaît comme une notion sociolinguistique importante, c'est-à-dire qu'il va représenter un groupe d'individus. Donc, grâce à l'accent, vous pouvez à peu près situer ce même groupe d'individus géographiquement. Par exemple, moi, vous m'écoutez, vous vous dites il est parisien, il habite sur le plateau. Mais non, mais à cause de mon accent, c'est ce que vous pensez de moi. J'aimerais parler de la dimension discriminatoire de l'accent et principalement les effets inconscients de ces accents sur notre cerveau. Est-ce que vous connaissez la glottophobie?
Non, mais j'imagine que ça a rapport.
Oui, bah non, ça n'a pas de rapport. Non, la glottophobie, c'est une idéologie du langage qui n'accepte qu'une seule forme correcte, donc le vrai français, et qui est considérée supérieure. Donc les autres façons de parler seraient-elles inférieures et donc assez honteuses à utiliser. Donc, d'après une étude que j'ai trouvée sur Le Devoir, c'est le professeur à Concordia qui s'appelle Antoine Bilodeau, et il veut prouver que les accents sont aussi une source de discrimination pour les personnes racisées, bien sûr, et au Québec. Donc, elle se base sur 1200 experts au Québec de tout type d'origine. On a des experts blancs caucasiens québécois, des experts blancs français, des experts noirs québécois, des experts noirs africains, tout type de personnes. Et donc, il s'exprime sur le réchauffement climatique et la taxe carbone au Québec. Et chaque répondant au sondage, répondant à ces experts, ne voit qu'une vignette avec la tête du monsieur qui parle ou de la femme. Et ça va être donc un homme noir ou blanc. Et ensuite, ils entendent parler cette personne une seule fois. Eh bien, il se trouve que les propos des experts ayant un accent africain, puisqu'il n'y a pas vraiment d'accent africain, mais un accent de type d'Afrique de l'Ouest, ou encore des experts avec un accent d'Europe de l'Est, étaient souvent dénigrés et pas pris au sérieux, alors que les experts ayant un accent québécois étaient la plupart du temps pris au sérieux. Et aussi, petite statistique un peu drôle, et qui vient aussi un peu remettre en question l'image du Québécois qu'on a, c'est que les personnes noires qui avaient un accent québécois surprenaient la plupart du temps les gens, parce que dans ta tête d'occidental, le Québécois, il est blanc, comme le Russe, tu vois, peu importe. Ce phénomène, il vient mettre en lumière le concept de minorité audible. C'est exactement le même principe que les minorités visibles. Donc, c'est comment un accent t'affiche en tant que minorité. C'est souvent les accents africains, les accents qui vont être connotés asiatiques, un accent d'Europe de l'Est, comme on dit, donc des accents qui sont beaucoup moins valorisés que la plupart des accents occidentaux. C'est assez choquant, puisqu'un accent ne devrait pas être un indicateur social, puisqu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de parler, à part si vous êtes un Français bourgeois du 15e siècle.
Mais c'est un peu ce que les Acadiens parlaient.
Hein? Exactement, oui. Ouais. C'était cette façon de parler d'une façon plus particulière ou différente. Et donc, on va considérer qu'il parle un français qui est mauvais. Mais c'est juste qu'on part du principe que notre français est mieux. Mais c'est un phénomène qui est très récurrent, comme par exemple en France, où l'accent que j'ai, l'accent international français, je ne sais pas comment l'appeler, ça serait l'accent parisien, ça serait la norme.
Ah bon ?
Je sais que dans des discussions avec des Parisiens, quand ils me disaient qu'ils adoraient l'accent du Sud et que je leur répétais qu'ils avaient un accent, ils me répondaient toujours « j'ai pas d'accent, je parle le français de base ».
Ah oui ? Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui, des gens de ma génération.
Puis les ch'tis, là
N'importe quel type d'accent qui n'est pas l'accent de base international va être dénigré.
C'est nouveau, les ch'tis chez nous, depuis le film, là.
Mais tu vois, quand moi, j'écoutais la télévision plus jeune, à Radio-Canada, il y avait un français international, puis ils parlaient tous de la même façon.
Mais il y a encore.
Aujourd'hui. Oui, mais moins, je trouve.
OK. Mais je sais que le...
Je
même
trouve
à Radio-Canada,
moins.
C'est popularisé, je pense.
Oui,
c'est l'accent Radio-Canada.
Oui, mais c'est quand même plus...
Porté quand même... Il y a une fierté du joual.
Maintenant.
Oui.
Maintenant. Oui. Avec les artistes. Oui, c'est ça, les nouveaux artistes.
Oui, Yvon Deschamps qui a été un des premiers à parler joual.
Oui.
Ça me fait penser à quelque chose... Je trouve qu'effectivement, avec les accents français, ça fait un peu ça. Mmh. Il y a comme une hiérarchie, celui qui parle bien, celui qui est connoté et tout ça. Et tu sais, j'ai vécu dans des pays francophones en Europe où il y avait beaucoup d'institutions européennes. Donc il y avait, à l'époque, comme il n'y avait pas le Brexit, il y avait plus de 28 nationalités qui étaient là. Et donc l'anglais, c'était comme la langue qui permettait aux gens de se connecter facilement. Et je trouvais qu'en fait, il y avait les accents, quand les gens parlaient anglais... On savait tout de suite qu'ils n'étaient pas anglophones première langue, mais c'était vachement plus respecté. Puis on ne va pas se foutre de la gueule de quelqu'un qui parle anglais avec un accent roumain.
Non.
Non.
Mais c'est très français de se moquer des gens qui ont un accent français.
Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a comme une non... ils ont très honte de leur façon de parler et du fait qu'ils n'arrivent pas à temps parler anglais.
The room.
C'est ça, I'm going to the room. Donc,
moi, je me demande si ce n'est pas quelque chose... Désolée de revenir là-dessus, mais si ce n'est pas lié en fait, à l'histoire coloniale. Et quand la France partait dans les pays pour coloniser, c'était on t'impose, tu vas être sous notre système, on va remplacer tes fonctionnaires par des fonctionnaires français. Or, les Anglais, leur manière de coloniser, c'était on s'installe chez vous, mais c'est vous, avec votre langue, qui allez gérer... en autonomie, ce que nous, on va vous dicter. Et donc, les colonies anglaises respectaient beaucoup plus les traditions et les cultures des gens locaux.
Mmh. Ouais.
Et peut-être que c'est ça, aujourd'hui, qui fait que... Aujourd'hui, un Français, ça bloque quand on attend un accent, et les Anglais, c'est fluide, ils laissent aller.
Ben, Maurice nous a trouvé une toune sur les accents. Joey, c'est quoi qu'on va entendre?
On va écouter la toune qui s'appelle l'accent du groupe Fabulous Troubadour.
Ouh là là.
Merci Maurice.
Surtout la tonne.
Ouais.
Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Tu l'écoutes, je vois qu'il est bien. Chaque mot début possède le sien. Le français parlé par les Toulousains suit un certain destin. Le mien provient du languedocien. Il vient de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient nous appartient. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Il se mélange avec le tien. Il y en a combien? Il y en a plein. Algérien, marocain, brésilien, africain, italien, sicilien. Imagine tout ce qu'il contient. Il est de la campagne, il est urbain, rien. Je ne regrette rien, ce qu'il devient m'appartient. Le tien, c'est le tien, et le mien, c'est le mien. L'accent. Le tien, c'est le tien, et le mien, c'est le mien. L'accent. L'accent de la télé ne signifie rien. Imposé par les infos, il déteint. Tous les pébrons prennent le sien. Oublie le leur, est-ce que ça te convient? Complètement aliéné soudain. Face au micro, alors il n'y a plus rien. Peur de l'accent qui vient d'où tu viens. Et pourtant, il t'appartient. Le tien, c'est le tien. Et le mien, c'est le mien. L'accent. Les médias c'est un déclin, la même pression partout se maintient. J'entends le seul et même refrain, le modèle du super citoyen. Si tu sais que c'est de quelque part que tu proviens, pour sérieux personne ne te tient. Folklorique pour eux égale crétin, un cliché auquel rien n'appartient. Le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent. Je vois qu'il est bien, chacun au début possède le sien. Le français parlé par les Toulousains suit un certain destin. Le mien provient du languedocien, il vient de loin et c'est un lien contemporain avec l'âge moyen. Ce qu'il devient nous appartient, le tien c'est le tien et le mien c'est le mien. L'accent.
Là, on aurait dû faire 2 heures là-dessus. Et là, là, hey, on va falloir conclure bientôt, mais quand même. On a encore réagi du fait que les perceptions de notre génération à nous, qui sommes sur nos gardes, on se garde des on a une barrière, on a un problème avec la peur de disparaître.
Ouais.
Qui nous empêche de voir. Puis je vois Raphaël qui travaille fort pour éviter tout conflit, tout. Puis qui, je sais pas, j'espère qu'on décourage pas tout, trop. Ouais.
Au contraire, ben non, parce que sinon je serais cordonnier mal chaussé, parce que je veux entendre cette émotion. Parce que pour moi, ça me fait réfléchir de me dire, OK, il y a une génération justement qui se sent en danger avec son français, avec son passé.
Ouais.
Mais je reviens à l'éducation. Tu sais, si je me prends comme exemple au secondaire et au primaire, on me racontait peu l'histoire du Québec moderne. On m'en a raconté des choses sur les Romains. Je sais plus de choses sur les Romains que sur le Québec. Si on nous avait pris le temps de nous raconter notre histoire, les gens qui étaient là avant moi, qui sont encore là, ma culture, mon français, d'où il arrive, tout ce qu'il a vécu dans les années 30, 40, 50, 60, 70... Peut-être que je serais beaucoup plus sensible justement à cette identité francophone aujourd'hui.
Mm-hmm.
Et on en parlait avant de revenir en onde, à rendre le français peut-être aussi cool qu'il était à une autre époque.
Hey, j'allais dire un mot en anglais, attractif.
Mais tu vois, attrayant.
Ouais. Attrayant.
Mais de rendre le français peut-être... Le français a toujours été cool, il est extraordinaire. Peut-être qu'il y a une génération qui se l'approprie un peu plus que peut-être ma génération ou d'autres générations, mais à faire des connexions justement avec des artistes qui émergent, qui justement se font un devoir de chanter en français, se font un devoir d'écrire en français, bien de mettre peut-être sur les tables de nos jeunes ces livres qui sont écrits en français par des Québécois et des Québécoises. Mm-hmm. Et je ne dis pas un Québécois de souche. Mm-hmm. Le Québécois que vous voulez vous faire dans la tête, là, personne qui parle français... Je pense que peut-être qu'on le trouverait encore plus cool, notre français, puis se faire un devoir. Et moi, maintenant, je le fais quand je mets une story sur Instagram, une publication.
Mm-hmm.
Bien, j'avais tendance à écrire « bon week-end », à écrire des trucs parce que
moi,
c'est cool.
Je suis allergique au « bon week-end ».
Bien là, maintenant, je me fais un devoir que même mon petit mot, je le mets en français. J'écrivais « vibes », de « vibes ». Maintenant, je me fais un devoir à petite échelle de mettre des mots en français. Puis ça peut avoir un impact auprès d'une personne.
J'ai des amis parisiens, là. C'est « happy birthday », puis tout ça, ils arrêtent pas. Je dis « pourquoi? »
Même parce que c'est cool.
Parce que c'est cool.
Mais c'est niaiseux.
Oui, mais c'est cool.
Mais c'est cool.
C'est même pas vrai.
C'est dur à questionner le coolness.
Tu remplaces quoi? Non, c'est plus le côté des... Par exemple, les vibes, tu mets quoi?
Le flow.
C'est, tu vois?
C'est beaucoup mieux.
C'est que je pense qu'il y a des trucs qui sont pas traduisibles. Je suis d'accord d'utiliser des mots. Par exemple, genre, je vais utiliser des mots qui sont anglais à la base quand c'est pas quelque chose qui a été fait en France. Je pense qu'il y a beaucoup d'anglais qui font ça. J'ai envie de dire t-shirt parce que les Français ont pas.
Bah ouais, nous aussi.
Tu vois,
gamin.
Tu vois, souvent on dit I feel good, mais je me sens bien. Je trouve que je me sens bien a tout un autre sens.
Mais
c'est un très beau sens.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est juste que je veux pas condamner l'accent montréalais, tu sais, anglo, parce que je l'aime bien aussi. Mais je pense que ça participe beaucoup à ce choc des générations. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui parlent genre 30-40% en anglais, mais sans faire exprès parce que c'est plus facile.
J'allais dire ça switch.
Mais tu vois,
je pense qu'on est à l'exemple de ce qui se passe.
Ça switch de l'anglais au français. Je dis, voyons, c'est des francophones ou des anglophones?
Ouais.
Non, c'est juste que la langue
dans
change.
Dans la même phrase, deux mots en anglais, un mot en français.
Ben, si c'est du chiac, ça va. Oui, c'est drôle, je l'accepte plus.
Mais c'est parce que c'est pas culturellement la même histoire. Mais c'est un peu ça pour plein de... Tu sais, c'est comme l'utilisation de l'arabe. Moi, quand j'habitais en France, je disais tellement de mots, je savais pas du tout que c'était arabe.
Ben, quand même... les premiers qu'on a entendus dans les accents qui étaient de la banlieue parisienne, c'était des arabes, justement, qui parlaient... Entre eux.
Ben, c'est le langage, ouais, le langage des cités, parce qu'il y a aussi une énorme population maghrébine, et puis ils viennent avec, ça vient transformer la langue.
Mm-hmm. Ouais.
Et le verlan en est un bel exemple.
Ah, oui, c'est vrai.
Mais plein de mots qui.
Exact.
Non, vraiment, c'est. Mais moi, c'est pour ça que je trouve ça beau, c'est que je pense que l'image du français des années 60-50 avec ce côté romantique, il est dépassé, qu'on a oublié de s'adapter. Mais moi, le français maintenant, je l'aime, je l'adore. Il est plus drôle, beaucoup plus folklorique.
Mais tu vois, le joual avant, nous, c'était proscrit, là. Tu sais, c'était... Tu viens de la base.
Du faubourg Amelas.
C'est ça. Ouais. Et puis maintenant, il est revalorisé parce qu'on a fait du progrès quand même, ma gang, là. On est plus fiers, je te dirais. Tu sais, quand moi, j'écoute mon oncle Serge, j'aime ça. J'aime ça qu'il a... qui l'affirme. Ben, c'est de même que je parle, moi, c'est clair. Tu sais.
Donc, quelque part, c'est comme un... Donc, le joual a été ramené par les artistes.
Oui.
Les artistes, c'est qui dans la société? Ce sont les gens cool. Et de la même manière qu'en France, à un moment donné, le verlan a été utilisé dans les cités avec beaucoup de... Allez, ben, ces populations maghrébines et tout ça.
Faudrait peut-être expliquer ce qu'est le verlan.
OK, ouais, le verlan, c'est comme un truc de langage où, en fait, on vient inverser des syllabes. Donc, par exemple, je vais vous faire une phrase. Ta rhum, elle est vraiment chamée. Ta mère est vraiment méchante.
Oh. Mais pas méchante dans le sens... Ah, elle est méchante.
C'est un autre
slang compliqué.
Et voilà, en fait, ce sont des codes et ça, c'est apparu. Alors, ça fait longtemps qu'on joue avec ces mots-là, mais la généralisation du verlan, ça vient dans les années 70-80 et c'était dans les cités et avec le hip-hop et tout ça. Et le hip-hop, c'est le début de la musique, donc on commence à. Tu sais, ça passe sur les radios, c'est les disques, les cassettes et tout ça. Et donc, c'est comment le verlan, il est sorti des cités pour aller rejoindre d'autres sociétés et comment aujourd'hui, c'est devenu une trend qui est cool. Et que les gens ont adopté.
Il y a un film qui a été écrit sur les policiers, justement, qui s'appelle Les Ripoux.
Les Ripoux.
À l'endroit, c'est pourri, là.
Ouais.
Donc,
Et un des premiers à l'avoir utilisé dans la chanson française, c'était Renaud, avec la chanson Laisse béton. Ouais. Et bon,
T'aurais pu finir ta phrase, c'est pas grave. Parce que c'est déjà fini, mon Dieu Seigneur. On s'en va vers la fin de semaine, justement, la belle fin de semaine. Ah, mon Dieu, on a encore quelque chose à vous faire écouter juste avant de partir. Alors, je vous dis bonjour tout le monde, merci beaucoup. Je vous souhaite... Oui, c'est fini.
Bonjour.
Bonjour, hi.
Bonjour.
Bonjour. Salut, au revoir. Allô, toutes.
Goodbye. Ciao.
Je trouve ça beau, le français québécois. Je trouve ça riche. Mon amour de la langue française. Je trouve que c'est la plus belle chose qu'on possède. C'est mon outil de travail, puis c'est le vôtre aussi dans plusieurs cas. Puis, mais une langue, ça peut mourir, hein, c'est déjà arrivé ailleurs. Et je voudrais citer Monsieur Jim Corcoran, qui a dit quelque chose de très beau dans un documentaire sur la loi 101. Il disait que l'anglais s'est répandu partout dans le monde par la musique et qu'une langue qui n'est plus chantée est une langue morte. Une langue vivante est une langue qui est chantée. Donc, continuez de chanter, chers amis, plus que jamais, continuez de chanter.
Je viens de fin fond de la campagne, même dans mon voisinage, on est tellement loin de la campagne, on parle encore le français cajun. Malgré le système d'éducation publique en Louisiane, parce que la première fois mon papa est allé à l'école, la première chose la maîtresse lui a dit, c'est Richard, on parle plus français ici. Mais mon père est beaucoup têtu. Ça fait qu'on parle encore français à la maison, j'aimerais chanter la chanson pour tous ceux qui se bat pour garder quelque chose que d'autres voudraient les enlever.
Avant de nous enfants, la jaune dans le champ. La main calose, mais son cœur était grand. Il m'envoie à l'école apprendre à lire, pensant de me donner de l'avenir. Mais papa pouvait pas imaginer que l'école on parlait pas français. Mais pas caché.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Springnet et Spandex, tous les hits des années 80.
Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
Ben, c'est pour annoncer ton émission.
Mais non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
OK, reste en ligne, cours la chance de gagner un voyage à Vegas avec 4 de tes chums.
Eh, bon boy! Spraynet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL 101.5
FM.
Bienvenue au Québec, c'est l'actualité locale, nationale et internationale sous le prisme d'un regard néo-québécois. Bonjour, mon nom est Cyril Équalin. Suivez-nous tous les dimanches de 15h à 17h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. On vous emmène loin tout en restant chez nous. À bientôt.
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
CIBL 101.5, Montréal.
Vivre Montréal.
La radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués, là, comme une espèce de longueur.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.